Un lieu sauvage et solitaire. La forteresse, région de Bandeno, 1561. Lucrèce s'installe à la longue table de dîner. Une table au plateau lisse et miroitant comme de l'eau, recouverte de plats, de coupes retournées, d'une couronne de sapins tressés. Son époux est assis, non à sa place habituelle, à l'extrémité opposée, mais à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse poser sa tête sur son épaule si l'envie lui prenait. Il déplie sa serviette, rajuste la position de son couteau, rapproche d'eux la chandelle, quand vient à Lucrèce, avec une évidence soudaine, comme si un fragment de verre coloré devant ses yeux avait été placé ou peut-être retiré, la certitude que son époux projette de la tuer. Elle a 16 ans, et une année entière ne s'est pas encore écoulée depuis qu'ils se sont mariés. Cette journée a presque été entièrement consacrée à leur voyage. Car il fallait profiter du peu de lumière qu'offre la saison. Quitter Ferrare à l'aube pour chevaucher jusqu'à ce lieu qu'il lui avait décrit comme un pavillon de chasse, tout au nord-ouest de la province. Mais cela n'a rien d'un pavillon de chasse, aurait-elle voulu lui dire une fois à destination. Un édifice en pierre sombre, aux murs élevés, bordé d'un côté par une dense forêt et de l'autre par les méandres sinueux du Pô. Elle aurait aimé pouvoir se retourner sur sa selle et lui demander « Pourquoi m'avez-vous emmené ici ?» Elle n'a rien dit cependant, a laissé sa jument le suivre le long du sentier, au milieu des arbres ruisselants, sur le pont arqué, dans la cour de cet étrange bâtiment fortifié, en forme d'étoile, qui déjà au moment de leur arrivée, lui avait semblé particulièrement vide. Les chevaux ont été emmenés, Lucrèce a ôté son manteau et son chapeau détrempé, et son époux l'a regardé faire, debout, dos aux flammes qui brûlaient dans l'âtre. Son époux qui à présent invite d'un geste les serviteurs de campagne rangés dans l'ombre de la salle à manger à s'avancer et à poser des mets dans leurs assiettes, trancher le pain, verser le vin dans leurs coupes. Et reviennent alors brusquement à la mémoire de Lucrèce les mots de sa belle-sœur soufflés d'une voix rauque à son oreille. « Vous serez puni. » Ses doigts se crispent sur le bord de son assiette. La certitude selon laquelle il nourrit le projet de la voir mourir est comme une présence à côté d'elle, un oiseau de proie au plumage sombre posé sur le bras de sa chaise. Voilà la raison de ce départ précipité pour ce lieu sauvage et solitaire. Il l'a emmenée ici, jusqu'à cette forteresse de pierre, pour la tuer. La sidération la sort de son propre corps. Elle manque d'en éclater de rire. La voilà qui flotte sous le plafond voûté, se voit elle-même et le voit lui, tous deux assis à table, enfournant dans leur bouche du bouillon et du pain salé. Elle voit la manière dont il se penche vers elle, pose ses doigts sur la peau nue de son poignet tout en lui murmurant quelques mots. Elle se regarde elle-même, acquiesçant, avalant sa bouchée, émettant un commentaire sur le périple qui les a menés ici et les paysages remarquables qu'ils ont traversés, comme si de rien n'était. Comme s'il s'agissait d'un dîner on ne peut plus commun, à l'issue duquel le couple se retirerait dans ses appartements. En vérité, pense-t-elle toujours là-haut, sous les pierres froides du plafond de la salle à manger perlant d'humidité, leur chevauchée depuis la cour fut morne, succession de champs désolés et gelés, et le ciel au-dessus des arbres nus était si bas qu'on l'aurait dit affaissé, exténué. Son époux donnait la cadence, un trot, des kilomètres et des kilomètres à rebondir sur la selle, à souffrir du dos, à subir le frottement de ses jambes dans leurs bas trempés. Malgré ses gants fourrés de peau d'écureuil, le froid avait pétrifié ses doigts sur les rênes, et peu de temps après leur départ, la crinière de sa jument avait givré. Son époux chevauchait en tête, suivi par deux gardes. À mesure que la ville laissait place à la campagne, Lucrèce devenait habitée par l'envie d'éperonner sa monture, d'enfoncer ses talons dans ses flancs, de sentir ses sabots voler au-dessus des pierres et de la terre, de filer à toute vitesse à travers les plates étendues de la vallée. Mais elle savait qu'il ne fallait pas, que sa place était derrière son époux ou à côté s'il l'y invitait, mais jamais devant. Ainsi avait-il continué à trotter. À table, près de l'homme qui soupçonne-t-elle va bientôt la tuer, elle regrette de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir lancé sa jument au grand galop. Elle regrette de ne pas avoir dépassé son époux en pouffant, exaltée par ce délicieux interdit, cheveux et manteau au vent, projetant derrière elle des giclées de boue. Elle regrette de ne pas avoir dirigé les rennes vers les collines lointaines, de ne pas s'être fondue parmi les plis et les pics rocheux pour qu'il ne la retrouve jamais. Il positionne ses coudes de part et d'autre de son assiette, tout en lui racontant que ce pavillon, puisqu'il persiste à l'appeler ainsi, était l'endroit où son père l'emmenait chasser enfant. Elle écoute un récit dans lequel il est question de flèches qu'on l'obligeait à décocher, encore et encore, pour toucher un arbre, jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle hoche la tête, répond lorsqu'il le faut par quelques murmures compatissants, même si elle brûle de le regarder dans les yeux et de lui dire « Je sais ce que vous préparez. » Serait-il surpris, décontenancé? N'est-elle pour lui qu'une épouse naïve, innocente, tout juste sortie de sa chambre d'enfant? Lucrèce voit tout. Elle voit le soin, la précision avec laquelle son époux a élaboré son plan en la séparant des autres, en s'assurant que ses domestiques resteraient à Ferrare, qu'elle serait seule, qu'il n'y aurait ici personne appartenant au château. Juste lui et elle, deux gardes postés dehors, et une poignée de serviteurs de campagne pour s'occuper d'eux. Comment compte-t-il s'y prendre? Une part d'elle-même voudrait lui poser cette question. Un couteau dans un couloir sombre? Ses mains autour de sa gorge? Une chute de cheval qui passerait pour un accident? Il ne fait aucun doute que chacune de ses idées a pu être nourrie par lui. Et mieux vaut réussir le passage à l'acte, aurait-elle envie de lui dire. Car son père ne sera pas du genre à se montrer indulgent face à l'assassin de sa fille. Elle pose sa coupe, lève le menton, tourne le regard vers son époux, Alfonso, duc de Ferrare, et se demande ce qui l'attend. Les circonstances malheureuses dans lesquelles Lucrèce a été conçue. Le Palais, Florence, 1544. Dans les années qui suivront, Éléonore regrettera amèrement les circonstances dans lesquelles son cinquième enfant a été conçu. Imaginez Éléonore. Nous sommes à l'automne 1544. Elle se trouve dans la Sala delle Carte Geografiche, la salle des cartes du palais de Florence, et tient un plan devant son visage. Elle est un peu myope, mais refusera toujours de l'avouer à quiconque. Ces dames restent à l'écart, aussi près des fenêtres qu'elles le peuvent. Bien que nous soyons au mois de septembre, la ville suffoque sous une chaleur accablante. Le puits dans la cour en bas semble s'être transformé en four, crachant de l'air chaud par sa bouche de pierre rectangulaire. Le ciel est bas et figé. Pas un souffle d'air ne vient soulever les tentures de soie aux fenêtres ni les drapeaux, mous, flaccides, sur les remparts du palais. Les dames de compagnie s'éventent et se tamponnent le front avec leurs mouchoirs, poussent des soupirs muets. Chacune se demande combien de temps encore leur présence sera requise dans cette salle lambrissée. Combien de temps encore Éléonore désirera regarder cette carte? Et qu'est-ce qui, enfin, suscite à ce point son intérêt? Les yeux d'Éléonore se promènent sur cette représentation de la Toscane dessinée à la pointe d'argent. Lignes brisées pour les collines, lignes sinueuses de corps d'anguille pour les rivières, dents de scie pour la côte qui s'étire vers le nord. Son regard survole les routes agglomérées en nœuds autour des villes de Sienne, Pise et Livourne. Éléonore est une femme consciente de sa rareté et de sa valeur. Elle ne possède pas seulement un corps capable de produire toute une lignée d'héritiers, mais aussi un visage gracieux, au front sculpté dans de l'ivoire, des yeux bien écartés, d'un brun profond, et une bouche toujours jolie, qu'elle soit souriante ou boudeuse. Son esprit, de surcroît, est vif et versatile. Contrairement à la plupart des autres femmes, elle peut déchiffrer d'un regard les marques griffonnées sur la carte et les transposer en champs regorgeant de céréales, en coteaux plantés de vignes, en récoltes, en fermes, en couvents, en métairies. Elle repose la carte, mais juste au moment où ces dames commencent à faire résonner les froufrous de leurs robes, prêtes à quitter cette salle pour une autre mieux ventilée, Éléonore en attrape une deuxième. Elle étudie la zone qui borde la côte. Une zone vierge, semble-t-il, à l'exception de quelques vagues points d'eau aux contours irréguliers. S'il existe une chose qu'Éléonore ne peut supporter, c'est la vacuité. Sous ses ordres, chaque salle, chaque couloir, chaque antichambre de ce palais a été rénovée dans le but d'occuper une fonction. Chaque parcelle de mur nu a été décorée et mise en valeur. Jamais elle ne tolérerait de voir ses enfants, ses servantes ou ses dames oisifs, ne serait-ce qu'une minute de leur journée.